8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, quelle place pour les femmes dans l'intelligence artificielle et plus largement dans le digital? Selon le dernier rapport de l'UNESCO, publié en 2024, elles ne représentent que 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde. Et quand elles jouent un rôle, il arrive aussi qu'elles soient oubliées de l'histoire. Bonjour Marion Carré.
Bonjour.
Vous êtes experte en intelligence artificielle et vous publiez une enquête absolument passionnante qui a voulu effacer Alice Rocock. Alice Rocock, c'est une femme qui a été une pionnière dans l'intelligence artificielle, mais bien avant aussi. Elle était ingénieure informaticienne française. Elle est décédée à 91 ans en 2021. Elle a dédié toute sa vie à cette science et pourtant sa page Wikipédia a failli disparaître. Votre livre est à la fois une histoire des progrès informatiques, aussi bien en Amérique qu'en Europe, mais aussi sur la place des femmes dans ces sciences. Et vous êtes d'ailleurs vous-même entrepreneuse dans la tech. On en parlera. En deuxième partie, portrait croisé de deux jeunes filles, Sena Boukane et Abigail Ifoma, lauréate junior Afrique du prix Margaret. Ce prix récompense des projets tech portés par des jeunes femmes. Et puis en fin d'émission, la chroniqueuse de RFI, Jennifer Lufaut, spécialiste des jeux vidéo, nous propose une sélection très personnelle des 25 personnalités francophones du jeu vidéo à suivre en 2024.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Marion Carré, pourquoi avoir voulu écrire sur une femme, cette femme Alice Rocock, que presque personne ne connaît, totalement inconnue du grand public, une Française ?
Et que moi, je ne connaissais pas non plus quelques années avant de m'attaquer à ce projet de livre. En fait, pendant un certain temps, donc effectivement, je travaille dans l'intelligence artificielle et je me demandais pourquoi est-ce que j'avais jamais entendu parler de pionnières françaises de la tech et du numérique. Je me disais, soit il n'y en a pas eu, soit peut-être que comme dans d'autres secteurs, comme notamment celui des arts et des artistes, il y en a eu, mais en fait, on les a complètement oubliés. Et en faisant mes recherches, je me suis aperçue que c'était la deuxième option. Il y avait eu effectivement des pionnières, parmi lesquelles Alice Rocock, complètement oubliée en dépit d'une brillante carrière. Et donc le livre est vraiment né de cette découverte assez étonnante.
Cette femme ingénieure informaticienne française, elle avait donc jusqu'en 2015 sa page Wikipédia. Et à un moment donné, c'est une page qui a failli disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Donc effectivement, c'est assez fascinant de rentrer dans le mécanisme de Wikipédia. Quelqu'un un jour crée cette page pour mettre en avant ses travaux et puis soudainement arrivent des personnes qui mettent en doute la légitimité de cette page, notamment en ayant pour argument que c'était pas une personnalité notoire, qu'elle n'avait pas accompli suffisamment de choses. Et en fait, ce que je démontre dans le livre, c'est tout ce mécanisme et l'aspect en fait systémique de la problématique qui fait que donc on a peu de femmes scientifiques, elles sont peu relayées dans les médias, donc il y a peu de sources secondaires qui sont toutes les sources qui parlent d'elles et qui sont chères à Wikipédia notamment, ce qui fait qu'ensuite leur légitimité peut être mise en cause en fin de course, et c'est ce qui s'est passé avec Alice Rocock.
Alice Rocock n'était pas une femme politique, donc comment vous avez retrouvé des sources pour retracer toute sa carrière ?
Alors effectivement, la difficulté supplémentaire, c'est qu'elle a opéré, on va dire, à une époque où on n'avait pas encore le web. Donc j'ai pu trouver quand même des archives sur elle en ligne, des interviews qu'elle a eues dans les médias, un certain nombre d'archives là-dessus. Mais assez vite, il m'a fallu aller à la rencontre des personnes qui l'ont côtoyée. Et donc ce livre, il est vraiment aussi nourri d'un grand nombre d'entretiens, que ce soit parmi ses proches, ses anciens collègues, mais aussi des personnes de cet écosystème qui ont pu éclairer sa trajectoire.
Elle a bien sûr aussi déposé des brevets scientifiques dont il reste la trace. Mais ce qui est incroyable, c'est de sentir dans ce débat sur Wikipédia. Je rappelle quand même que Wikipédia, c'est le 4e site le plus visité de France en 2023. Donc, c'est pas anodin. Une femme qu'on tente d'invisibiliser, finalement, qu'on tente de rayer de Wikipédia. Et tout un débat qui s'enflamme en disant, mais est-ce qu'elle a vraiment eu un poids dans l'histoire de l'informatique? Est-ce qu'elle a vraiment été innovante, etc., etc. C'est loin d'être une anecdote. Pourquoi, dans le fond, les femmes ne franchissent pas les barrières de la célébrité numérique, en tout cas au XXe siècle et encore aujourd'hui jusqu'à une époque récente?
Et effectivement, c'est toute la dynamique de ce livre qui est de partir d'Alice Recoq pour montrer que c'est un problème plus général et universel. Et sur ces pages Wikipédia, en 2022, on avait seulement 19% des biographies sur Wikipédia qui portaient sur des femmes. Donc c'est un problème assez global.
Toutes disciplines confondues, là on parle pas des scientifiques.
Hein. Exactement. Donc on voit que c'est un problème plus large.
19% de femmes dans les biographies.
Effectivement, donc très très peu représentées. Et c'est quelque chose qui, du coup, a tendance à s'auto-alimenter. Puisqu'ensuite Wikipédia peut notamment être une source qui va alimenter des intelligences artificielles, et on voit que ce problème de sous-représentation des femmes, il se reproduit ensuite en chaîne, et il peut aussi notamment s'expliquer par le fait qu'on a assez peu de contributrices Wikipédia. Elles sont aussi une minorité, donc voilà, il n'y a pas de hasard non plus à ce niveau-là.
Donc pas assez de femmes déjà dans ces domaines, pas assez d'actions, et quand il y a des actions, pas assez de savoir-faire pour faire savoir ce que l'on fait, comme vous êtes en train de faire pour Alice Recoq.
C'est vraiment un sujet de mise en lumière, et Alice Recoq n'est pas du tout la seule. Il y a par exemple aussi Marion Créange, qui était première femme à soutenir une thèse en informatique en France. Et pareil, il y a eu les mêmes difficultés à son sujet. Alors après, il y a des personnes qui se battent. Je pense notamment au collectif des 100 pages que j'ai aussi relayé dans le livre, qui œuvre pour faire en sorte. Des fois, il y a des hackathons aussi menés par des écoles ou par différentes équipes pour faire en sorte d'alimenter Wikipédia pour qu'il y ait plus de
beaucoup d'Américaines, notamment, qui se mobilisent.
Ça, exactement. Donc, alors, c'est un sujet sur lequel on peut avoir un impact.
Nous allons voir exactement qui était Alice Recoq. Elle est née en Algérie. Elle a travaillé toute sa vie dans un milieu très masculin. Elle a été veuve très jeune, avec 3 enfants en bas âge. Elle a fait une carrière incroyable, en étant assez visionnaire aussi. Hein, elle ne cherchait pas le pouvoir. Et d'ailleurs, le journal Le Monde écrivait en 1950, il y a un journaliste qui raconte la présentation d'une nouvelle invention, d'une nouvelle machine informatique, hein, capable de lire l'échec. Et il dit, vous le citez, une machine capable de lire l'échec, pas de raison de s'inquiéter, assure-t-il, il n'y a là aucune diablerie. Le tout fonctionne grâce à une machine à écrire. Selon lui, pas de risque non plus que les écoliers puissent un jour s'en servir pour leur devoir de traduction, parce que il n'est dans le travail mental auquel se livre un traducteur aucune opération qui ne puisse être effectuée par une machine. Eh bien voilà, ChatGPT lui donnera malheureusement tort. Concluez-vous, vous restez avec nous, on va se retrouver juste après Mickey 3D. Nous étions des humains.
Nous étions des humains, des vivants de demain, partis pour un très long chemin. Nous avions des bâtons, de la boue sur les mains. On suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci. Merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient, sur un dernier soupir, j'avais pas l'impression de mourir. La peau de la chair et des os que nous avions du mal à protéger. Là-haut sur la falaise, les vautours attendaient C'était chacun son tour, rien n'a changé. Notre histoire est si belle et le monde est si beau. Essayons de faire voler nos vélos. L'aventure est si courte et le ciel est si grand. Essayons de bien prendre notre élan.
De voisins, nous sommes en direct sur RFI et aujourd'hui, quelle place pour les femmes dans l'intelligence artificielle et plus largement dans le digital? On en discute avec vous, Marion Carré, à la lumière de votre incroyable enquête parue aux éditions Fayard, qui a voulu effacer Alice Recoq sur les traces d'une pionnière oubliée de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, elle n'a pas fait toute sa carrière dans l'intelligence artificielle et pour cause, elle est morte en 2021 à l'âge de 91 ans, mais elle a été très visionnaire. Elle a failli disparaître de Wikipédia. Vous nous le disiez il y a quelques minutes. Comment est-ce qu'elle a fait carrière à une époque, c'est-à-dire en fait la deuxième moitié du XXe siècle, à une époque où son beau-père lui dit qu'une femme d'un bon milieu social ne doit pas travailler, et dans un milieu qui est quand même très masculin?
Alors effectivement, ce qui est assez intéressant avec Alice Recoq, c'est qu'elle commence sa carrière dans les années 50, à une époque où le mot ordinateur n'existe pas. D'ailleurs, la petite anecdote derrière l'invention de ce mot est assez amusante. On a un ingénieur d'IBM qui cherche un nom à donner à cette machine qu'il n'a pas envie de traduire computer en calculateur. Il veut trouver autre chose. Il consulte un ancien professeur qui propose ce mot, donc dérivé de ordonnateur, Dieu qui ordonne le monde, donc ordinateur. Mais il propose plutôt ordinatrice, qui selon lui l'éloigne de sa fonction et de son univers initial. Mais donc finalement, c'est ordinateur qui est retenu.
Comme par hasard.
Exactement, c'est assez étonnant. Donc elle débute dans ce milieu balbutiant, mais qui présente des parallèles assez amusants quand on sait ce qui s'est passé ensuite. Elle rejoint une entreprise qui s'appelle la SEA, qui est installée dans un ancien garage. Donc avant que ensuite les entreprises comme Apple, Google et Amazon popularisent ce mythe des années plus tard.
Du garage.
Exactement.
Notamment pour Facebook.
C'est ça, tout à fait. Elle, ça débute comme ça.
Et avant qu'elle débute d'ailleurs, elle fait partie des 40 admis au concours de l'école. Alors il n'y avait pas d'école d'informatique en 1950. C'est l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris. Et il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où Polytechnique, par exemple, ne s'ouvre aux femmes qu'en 1972.
Tout à fait.
Le Polytechnique qu'on connaît.
Exactement. Oui, parce qu'il y a un Polytechnique féminine pour les femmes, mais c'est autre chose. Et il y a encore des écoles d'ingénieurs qui ne sont pas ouvertes aux femmes. Donc il n'y a pas du tout d'études d'informatique. Elle se lance dans des études de physique à l'ESPCI. Et petit à petit, elle trouve sa voie. Elle atterrit un peu par hasard quand même dans l'informatique, puisque c'est une camarade de promo qui lui dit « Viens, ils sont pas anti-femmes, rejoins-nous. » Et donc, elle commence sa carrière en travaillant sur le tout premier ordinateur de construction française opérationnel, qui est le CAB 1011, et qui est une machine cryptographique conçue pour les besoins notamment du renseignement extérieur. Donc, elle débute là-dessus, elle se spécialise, elle, sur les mémoires des ordinateurs, qui est quelque chose, en fait, d'assez important, puisque c'est ça qui permet la miniaturisation et la montée en puissance des ordinateurs et des petits ordinateurs de poche qu'on a tous aujourd'hui, que sont notamment les smartphones. Donc elle travaille là-dessus, c'est vraiment son
sujet. Et à cette époque,
sujet.
Le CAB 1011, il était énorme, il était comme le CAB 500 qui faisait 2 mètres et 650 kilos.
Alors c'est ça, ensuite le Cap 500, c'est la machine sur laquelle travaille ensuite 650 kilos. Ce qu'on considère à l'époque comme un petit ordinateur.
2 mètres de large.
C'est ça. On pense que c'est un petit ordinateur, donc il faut s'imaginer un univers de l'informatique où on est sur des ordinateurs qui prennent des pièces entières comme la taille de ce studio, qui nécessitent l'installation d'un plancher, de réfrigération, donc des choses qui sont très très lourdes. Mmh. Mais elle, dès cette époque, et notamment avec le Cap 500, elle croit à l'informatique personnelle et à cette miniaturisation progressive des ordinateurs. Et donc il y a un certain nombre d'inventions et d'innovations qui sont intéressantes, puisque c'est notamment la première fois qu'un clavier fait son apparition pour transmettre des instructions à la machine, ce à quoi on est aujourd'hui très très habitué, mais à l'époque c'est plus original. Et il y a déjà des fonctionnalités comme le fait de compléter un mot qu'on a commencé. Donc il y a des choses qui aujourd'hui auxquelles on est parfaitement habitué, mais qui à l'époque détonnent. Donc elle commence comme ça avec un début de carrière très prometteur, et puis ensuite assez rapidement elle se retrouve mise au placard puisque on a donc c'est là que la petite histoire rejoint la grande histoire. On a
celle de Gaulle.
Plan calcul. C'est ça, qui a un grand plan très ambitieux pour l'informatique française à compter des années 60. Et donc, elle, en fait, voilà, son entreprise est fusionnée avec une autre et elle part au département de la recherche, qui est un peu un placard dans la configuration de l'entreprise. Et donc, elle va passer du temps notamment à l'IRIA, qui est l'ancêtre de l'INRIA, aussi issu du plan calcul. Et donc là, elle passe du temps à réfléchir à ce qui sera ensuite son prochain grand projet, qui est le Mitra 15. Donc là, on est dans les années 71.
Alors, il a fondu. Hein, le Mitra 15, il fait que 25 kilos.
C'est ça. On voit déjà progressivement
produit
que
par
ça...
Bull, hein, la grosse entreprise informatique de référence.
C'est ça. Donc, en fait, son entreprise, elle est restée toute sa carrière dans la même entreprise, mais qui a subi beaucoup de fusions. Donc, il passe de la SEA à la C2I, compagnie internationale pour l'informatique. On voit les ambitions françaises à ce moment-là, qui devient ensuite Bull. Donc, il y a toute cette généalogie, on va dire, de ces entreprises informatiques françaises. Mais donc, elle, ensuite, voilà, elle est ensuite à l'origine du Mitra 15, qui est un ordinateur qui a eu énormément de succès. Sa revanche, elle, c'est qu'il est produit en dehors du plan calcul. Donc, il n'y a pas nécessité de financement de ce plan-là. Et pourtant, c'est un grand succès. Donc, c'est une machine qui, elle, a croisé des chemins sur... la transformation informatique de la société de l'époque, puisque ça participe à notamment l'automatisation d'infrastructures comme les télécommunications, avec la fin des demoiselles du téléphone à ce moment-là, le réseau électrique, le contrôle aérien, des grandes aventures technologiques comme la conquête spatiale, mais aussi les premiers réseaux avec des ancêtres d'Internet. Donc c'est vraiment central ensuite.
Et à l'époque, le Mitra 15 qui fait 25 kilos, on parle d'un mini ordinateur hein, là aussi.
C'est ça, exactement. On perçoit vraiment ça comme...
Ce qui est intéressant, vous parliez du plan calcul lancé par le général de Gaulle, c'est qu'on découvre aussi dans votre livre, hein, c'est pas juste un livre pour dire bon, les femmes sont invisibilisées dans le domaine du digital, c'est que on découvre que, en fait, elle a fait la majorité de sa carrière dans le secteur privé, mais avec des implications dans des politiques publiques. Et on se rend compte que les politiques scientifiques de l'informatique, elles sont bien gérées par l'État, que les ordinateurs ne sortent pas seulement, parce qu'on a tellement pris l'habitude avec Apple, etc., mais ça ne sort pas seulement des entreprises privées, en fait, comme les voitures. Il y a un vrai enjeu politique, géopolitique même aussi, de rester dans la course, notamment par rapport aux États-Unis.
Tout à fait. Et c'est vraiment ça, en fait, l'urgence, on va dire, de ce plan calcul, c'est de doter la France de champions internationaux, d'infrastructures, avec cette bête noire de l'époque qui est IBM, qui du coup croit hein, et qui a un succès galopant, à tel point que des fois des administrations françaises préfèrent commander IBM plutôt que ces ordinateurs français. Et donc on a déjà un enjeu, une urgence à cette époque de rester dans la course. Qui motive notamment la création de cette compagnie internationale pour l'informatique. Et Alice Recoq, elle, effectivement, elle a été visionnaire vis-à-vis de ça. Elle a anticipé pas mal de choses qu'on connaît aujourd'hui, mais qui sont déjà la place qu'allaient prendre les réseaux. C'est quelque chose qu'elle anticipait fortement à l'époque. Aussi, l'importance de défendre les données personnelles. Dès les années 70, elle participe à la
fondation de la CNIL.
C'est ça.
Sur la protection des données personnelles. Ce qu'on découvre et qui est vraiment incroyable dans votre livre, c'est que, en fait, jusque dans les années 50-60, les programmeurs étaient en majorité des programmeuses. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que les femmes disparaissent ?
Alors, effectivement, ce mot « computer », initialement, il désignait des femmes donc calculatrices. C'était une profession assez courante, et donc avec majoritairement des femmes, pour une première raison très pragmatique, était qu'elles coûtaient moitié moins cher que les hommes. Donc, les employeurs étaient très friands. Et c'était si courant qu'au début des ordinateurs, on évaluait leur puissance en parlant de « girl years », comme on fait avec les chevaux pour les voitures. Donc c'était vraiment quelque chose de très présent. Et pour les femmes aussi, c'était un emploi qui avait pas mal de succès, puisqu'on pouvait notamment travailler de chez soi en recevant des instructions par courrier. Donc on avait beaucoup, beaucoup de femmes. Et ensuite, parmi les premières programmeuses, il y avait aussi des femmes. Et donc parmi ces femmes qui ont fini par passer finalement à la postérité, on a ces ENIAC 6 qui travaillaient sur un des premiers gros ordinateurs. Et pareil, en fait, ce que disait une de ces femmes, qui est Betty John Jennings, c'est que, en fait, on se rendait pas vraiment compte de l'importance stratégique de ce qu'elle faisait. On pensait que c'était un peu comme des demoiselles du téléphone qui pouvaient juste brancher des câbles. Donc, pareil, il y avait beaucoup de femmes, jusqu'à ce qu'on ait ensuite une revalorisation de la profession, avec notamment une crise du logiciel dans les années 60. Donc, il y a des choses dramatiques qui se passent, une sonde de la NASA qui est détruite parce qu'on a fait une simple erreur de programmation toute bête. Et donc, on va chercher à redorer cette profession en parlant de software engineering, donc de génie logiciel. Et là, on a une entrée en masse des hommes dans ce secteur.
Ouais. C'est-à-dire que 60 ans plus tard, le tout numérique est devenu en fait un énorme enjeu de pouvoir économique, de pouvoir politique. Et comme par hasard, les femmes ont disparu, c'est-à-dire qu'elles ont été évincées.
C'est ça, c'est qu'en fait, comme on a une augmentation très forte des hommes, on a beaucoup, beaucoup moins de femmes. Et c'est ce qu'on voit aussi sur l'intelligence artificielle. On a un boom des personnes qui se lancent dans ces professions, parce que c'est quelque chose qui est très rémunérateur. Mais pour autant, la progression de femmes, elle progresse très, très lentement dans l'intelligence artificielle, seulement 4 points en 7 ans, alors qu'on a un x6 sur les personnes qui se lancent dans ce secteur.
C'est-à-dire qu'on a régressé, on est presque revenu au niveau des années 60. On pourrait pratiquement faire ce raccourci, selon vous, Marion Carré?
Moi, j'invite à une prudence, en se disant qu'en fait, on a l'impression que ça va augmenter parce que le temps fait mécaniquement son œuvre, mais en fait, pas du tout. Il faut faire attention à ne pas avoir de régression.
Et bien justement, on en parle avec vous, Marion Carré. Vous signez « Qui a voulu effacer Alice Recoq sur les traces d'une pionnière oubliée de l'intelligence artificielle ?» Et on va essayer de comprendre quel est l'enjeu des femmes dans l'intelligence artificielle.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Selon les données, je le disais en début d'émission, hein, ce sont les données les plus récentes du Forum économique mondial, mais aussi reprises par l'UNESCO, 22% de femmes dans les professions qui sont liées à l'intelligence artificielle, ça c'est dans le monde. En France, c'est moins encore, Marion Carré ?
Effectivement, alors on a 24% des emplois des professions numériques occupés par des femmes en 2023. Donc ça recoupe l'intelligence artificielle et d'autres secteurs, mais oui.
12% de femmes dans l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est quoi ? Pourquoi aujourd'hui ? Bon, on est à l'ère du féminisme, post-MeToo, etc. Mais dans le fond, quel est l'enjeu des femmes dans l'intelligence artificielle ? Est-ce que c'est un enjeu business pour les entreprises, d'avoir plus de femmes ? Est-ce que c'est un enjeu politique, un enjeu citoyen, un enjeu économique et social à l'échelle des pays ?
En fait, l'enjeu, il est très simple, c'est qu'au fond, on construit les technologies qui nous ressemblent. Et dès lors qu'on a des équipes peu diverses, on va du coup avoir des applications du numérique et de l'intelligence artificielle qui ne vont pas servir tout le monde. Et donc, dans l'intelligence artificielle, on a ces problématiques de biais. Si on demande, par exemple, à mi-journée un ingénieur, on va avoir en anglais, donc avec un terme neutre, on va avoir plus d'hommes. Pareil pour les CEO. Ensuite, on a des outils qui vont répliquer aussi des stéréotypes de genre, avec tous ces assistants personnels qui ont des noms et des voix de femmes. Et ça conforte aussi ces idées reçues. Et surtout, il va y avoir vraiment un décrochage vis-à-vis des possibilités qu'apporte l'intelligence artificielle et le numérique, avec donc il y a tous ces exemples de discrimination à l'embauche parce que effectivement on a moins de CV de femmes, donc du coup les intelligences artificielles répliquent ces biais. Et il y a quelque chose que je trouve assez frappant de fracture numérique entre les sexes aussi, avec notamment des chiffres de l'UNESCO qui montrent que les femmes sont 25% de moins susceptibles que les hommes de savoir tirer parti de la technologie pour des manipulations assez basiques, ce qui veut dire du coup derrière moins d'accès à la recherche d'emploi, à l'obtention d'emploi, et donc des inégalités aussi économiques frappantes.
Oui, parce que demain c'est 75% des emplois créés qui seront liés au domaine scientifique et technique, hein. Au sens très large, digital au sens très très large, les hommes sont en train de prendre les meilleures places, les postes les mieux payés, et cette fracture, elle va aller en s'accroissant.
Effectivement, si on n'est pas vigilant, si on ne change pas la perception qu'on a des femmes dans ce secteur, ça va aller en s'accroissant. Et ce que je cherche à montrer aussi dans ce livre, c'est que c'est quelque chose qui commence très tôt, qui est déjà culturel, qui est vraiment ancré dans les esprits. On a des exemples qui viennent même, ne serait-ce que des objets culturels comme des jouets, avec cette Barbie, notamment en 2014, qui devait faire appel à des collègues masculins pour coder, alors que c'était une Barbie ingénieure. Et donc on a en fait tous ces préjugés qui sont présents, qui ensuite se répètent au moment de la formation et de l'orientation avec une auto-sélection des femmes. Par exemple, quand les hommes se jugent bons en maths, ils ont plus de chances d'aller en filière scientifique que les femmes.
Et d'aller en classe préparatoire.
Exactement, c'est ça. Et ensuite, ça se répète au stade des écoles d'ingénieurs, comme on voyait. Donc c'est vraiment quelque chose de systémique et qui s'alimente en fait. C'est-à-dire que moins on a de femmes dans l'informatique et moins on en aura.
Les filles aujourd'hui sont encore largement minoritaires dans les écoles d'ingénieurs en France ?
Effectivement, c'est quelque chose, et moi je trouve ça intéressant d'avoir ce recul que permet la figure d'Alice Recoq, c'est qu'on a une moyenne haute sur les années 30 à 50 de 20% de femmes dans les promotions de l'USPCI, et aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs en 2022, on serait à 33% de femmes, donc on voit que...
Ça n'a pas bougé.
Voilà, on gagne une quinzaine de points en 70 ans, donc c'est
Alors on a quand même première femme nommée à la direction générale de l'école polytechnique, Laura Chaubard. Et puis, il faut redire, 33% des filles seulement sont encouragées par leurs parents à choisir une voie vers les métiers du numérique contre 61% des garçons. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Marion Carré, et ça sera pratiquement le mot de la fin, vous venez d'un cursus plutôt littéraire, communication, sciences humaines, et vous êtes devenue entrepreneuse dans la tech, cofondatrice, présidente d'AskMona, c'est une start-up qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès à la culture. Vous êtes aussi membre du comité de l'intelligence artificielle sous l'égide du ministère de la Culture. Mais vous avez fondé cette start-up avec deux associés, il me semble.
Oui, avec deux hommes. Associé, Valentin Schmidt, qui est un homme.
Parce que c'est plus facile pour avoir des crédits bancaires ?
Non, c'était parce qu'on se connaissait initialement, mais ça, c'est quelque chose d'assez vrai sur l'accès au financement des startups fondées par les femmes. Les équipes 100% féminines ont 4 fois moins de chances d'être financées. Ça, c'est le baromètre Sista qui le montrait. Donc, il y a des vrais sujets d'inégalité d'accès au financement pour les startups montées par des femmes.
Merci à vous Marion Carré. Il faut lire votre enquête. Hein. Qui a voulu effacer Alice Recoq sur les traces d'une pionnière oubliée de l'intelligence artificielle ? C'est paru chez Fayard. Vous restez avec nous ?
Bien sûr.
On va découvrir deux jeunes filles dans la tech. Nouvelle génération, autre continent.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour Emmanuel.
Elles ont entre 16 et 17 ans, l'une est camerounaise, l'autre est sénégalaise. Toutes les deux se lancent dans les nouvelles technologies. Vous avez rencontré deux adolescentes finalistes du prix Les Margarettes dans la catégorie Junior Afrique.
Oui, alors ce prix Les Margarettes, c'est un prix organisé par une organisation internationale qui s'appelle Journée de la Femme Digitale. Et chaque année, depuis 11 ans, ce prix récompense des entrepreneuses ou de futures entrepreneuses pour leurs innovations.
Alors là, on ne va pas forcément... Alors ça s'appelle les Margarettes, peut-être il faudrait le préciser, en référence à une Margaret particulière dont vous parlez d'ailleurs, Marion Carré, dans votre livre.
Et oui, Margaret Hamilton, une informaticienne qui travaillait au sein de la NASA, donc l'agence spatiale américaine. Donc Margaret Hamilton était à la tête du service qui a développé les logiciels embarqués au sein du programme spatial Apollo. Ce programme qu'on connaît bien, qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune en 1969.
Oui, alors là, avec ces concours, on ne va pas forcément aller sur la Lune.
Non, le projet des deux finalistes du prix, donc les Margarettes Junior Afrique que j'ai rencontrées, ne sont clairement pas aussi abouties, mais quand même, elles y croient, vous allez l'entendre. Alors elles étaient de passage à Paris le mois dernier pour assister à la remise de ces prix. Je vous propose d'écouter d'abord Senabou Khan. Elle a 17 ans, veste en jean, lunettes noires, lycéenne à Dakar, où elle voit chaque jour beaucoup de déchets.
Bon, dans les rues, vous voyez des gens, des fois, ils jettent leurs gobelets de café, comme ça. Leur sachet d'eau, sans qu'on ne dise rien, parce que c'est une habitude en fait. Les poubelles, il n'y en a pas beaucoup dans les rues. Il faut marcher assez longtemps pour voir une poubelle. Pour certains, ça nous a fait prendre conscience qu'on a vécu dans un environnement qui n'était pas forcément adapté pour nous parce que la pollution est assez présente. On pouvait en parler avec des professeurs d'éthique, par exemple, ou bien des professeurs d'anglais quand on faisait des exposés, des professeurs d'histo-géo. Au début, ça ne m'intéressait pas vraiment. Déjà à 14 ans, on est assez jeune. En fonction des années, on a commencé à faire des cours de technologie à l'école. Ça a commencé à me fasciner et du coup, je me suis demandé est-ce qu'on ne pouvait pas régler ce genre de problème avec la technologie ?
Qu'est-ce que vous appreniez en cours de technologie ?
En fait, on nous apprenait les bases de l'informatique, qu'est-ce que c'était un ordinateur, comment l'utiliser, les outils qu'on pouvait utiliser sur un ordinateur comme Word, PowerPoint. Et aussi, on a commencé à programmer des petits robots pour qu'ils fassent des parcours qui roulent. Bon, ce serait surtout vers la fin du collège, début lycée, justement. C'était juste des petits robots qu'on programmait pour avancer, éviter les obstacles ou bien suivre des lignes noires.
Et qu'est-ce qui vous plaisait pendant ces cours de technologie ?
En fait, j'adorais le fait qu'on puisse programmer, qu'on puisse parler à l'ordinateur et lui dire de faire ce qu'on voulait qu'il fasse. C'était ça que j'aimais en fait. Parce que des fois, il y a des petits bugs. Par exemple, si on fait un programme sur un robot qui suit une ligne noire, on doit programmer la vitesse de rotation, d'avancement ou pour le recul. Et des fois, c'est pas vraiment ajusté, ça marche pas vraiment. Et quand ça marche, c'est fini, ça marche, c'est extrêmement satisfaisant.
C'est une réussite.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors justement, votre projet aujourd'hui, quel est-il et comment vous en avez eu l'idée ?
Le concept, c'est le tri automatique des ordures. C'est de pouvoir montrer à une caméra le déchet qu'on voudrait jeter et que la caméra puisse reconnaître la nature du déchet. Si c'est un déchet en plastique, en verre, en papier ou bien un déchet organique. Et qu'après, grâce à une certaine programmation, ben qu'en fait, la poubelle correspondante à cette nature puisse s'ouvrir automatiquement sans qu'on ait besoin de le faire et qu'on ait le temps de jeter le déchet qu'on voudrait jeter.
Et c'est quand même à nous, humains, de prendre le déchet et de le mettre dans la bonne poubelle.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, là, le robot sert juste à nous orienter sur la nature du déchet.
Parce que moi, bon, au Sénégal, il n'y a pas vraiment de tri. On peut rouler dans toute la vie sans voir une eau poubelle d'une couleur particulière. Donc je me suis dit, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment trier, tout le monde ne sait pas quel déchet va dans quelle poubelle. Donc moi, ma solution, c'était surtout pour aider les gens à trier.
Après, il faut aussi un système d'acheminement des déchets et du recyclage qui n'est pas forcément existant encore au Sénégal.
C'est pour ça que le projet n'est pas parfait, le projet est encore à améliorer. On pourra faire accélérer le changement qui se passe au Sénégal parce qu'il y a certaines initiatives quand même qui œuvrent dans la réutilisation des déchets. Le projet sur lequel je travaille, ça utilise l'intelligence artificielle, ça utilise l'IA en créant une mémoire visuelle grâce à des photos de déchets de différents types. On apprend nous-mêmes à la machine à reconnaître les différents types de déchets en soumettant des images.
Sena Boukane est arrivée en finale du prix Les Margarettes Junior Afrique avec son projet donc d'aide au tri avec l'intelligence artificielle, mais elle n'a pas gagné, Charlie Dupio.
Oui, c'est ça. La lauréate dans cette catégorie s'appelle Abigail Ifoma Chinedou. Elle a 16 ans et elle est camerounaise. Son projet est plutôt axé, lui, sur la santé. Elle a mis au point un robot qu'elle a appelé Mia pour My Intelligent Assistant. C'est une sorte de bracelet relié à une tablette numérique et ce bracelet peut mesurer les paramètres vitaux des patients. L'idée, hein, c'est de décharger les soignants de cette tâche. Abigail s'est initiée à la robotique dans son lycée privé à Yaoundé et elle a déjà participé à de nombreuses compétitions autour de la tech.
En novembre, nous étions dans une compétition de robotique où on représentait le Cameroun à Singapour. Là-bas, on travaille en groupe de 5, 6. Vous travaillez, vous cherchez le design de votre robot, comment vous voulez qu'il soit, ce que vous voulez que le robot fasse comme tâche. Tout le monde devait construire un robot d'un mètre et pas plus. Nous, on l'a monté avec les gens de mon établissement, du Cameroun. Et il y avait d'autres pays, il y avait le Brésil, la Chine, d'autres pays.
Et vous, vous avez gagné ce concours ?
Non, on n'a pas gagné, malheureusement, non. Mais on n'était pas aussi les derniers. On était le troisième pays en Afrique. Le Nigeria, c'était le premier pays en Afrique. Ensuite, le Congo et troisième Cameroun. il y avait 192 pays en tout.
C'est une compétition pour des jeunes
de 15 à 18 ans. C'est formidable de faire partie de toutes ces compétitions-là. Ça nous apprend parce que chaque jour, on apprend à avoir plus d'idées. Parce que comme à Singapour, il y avait plusieurs pays, plusieurs personnes, on faisait connaissance, on essayait de voir comment eux, ils ont fait pour pouvoir plus apprendre pour la prochaine fois.
Moi, avant, je n'ai pas vraiment participé à des compétitions de technologie. J'ai surtout participé à des formations. Mais là, participer à ma première compétition de technologie et être finaliste quand même Junior Afrique, ça me rend extrêmement fière quand même parce que je ne pensais pas avec ce projet aller jusque-là.
Là, toutes les deux, vous êtes au lycée encore ?
Oui, nous sommes au lycée. Je suis en classe de terminale
et moi je suis juste en première S1. Donc.
Comment vous arrivez à réfléchir à des projets qui sont des projets d'entreprise en étant à l'école ?
Ma mère au début était aussi sceptique parce que moi je suis en classe de terminale et je dois composer mon baccalauréat cette année. Donc elle se disait, ça va te prendre beaucoup de temps au lieu d'étudier pour ton bac et tout. Tu es sûre de pouvoir gérer les deux? Et puis je lui ai dit oui maman et tout. Même jusqu'à présent je révise, je fais des cours. Genre on m'envoie des cours chaque jour, je révise. Je sais que c'est pas facile mais je me dois de réussir.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être des tech girls? On va dire des filles de la tech, des filles qui développent des nouvelles technologies.
Ça nous fait plaisir. La plupart des filles dans mon école ne s'intéressaient pas trop à ça. Je sais que ça va encourager beaucoup de filles dans ma communauté à s'intéresser du côté de la technologie, de l'innovation, en gros, oui.
Parce que jusque-là, dans votre école, vous étiez la seule fille?
Non, nous étions quatre.
Quatre filles?
Oui, nous sommes juste quatre. Dans tout un club de, je crois, 53 élèves, il n'y a que quatre filles. C'est un club de robotique, là où on construit les robots. Mais je sais que quand je vais rentrer, plusieurs personnes seront intéressées que oui, elle a pu faire ça. Ça veut dire que moi aussi, je peux faire. On va me traiter de garçon parce qu'elles se disent que la robotique, c'est plus garçon. Oui.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui se mettent à fabriquer des machines, les réparer, à programmer, alors qu'on est aussi douées que les hommes pour ça. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas faire ça.
C'est un message que j'aimerais faire passer à d'autres filles partout dans le monde, même pas seulement en Afrique. J'aimerais qu'elles s'intéressent plus à la technologie et d'autres idées vont éclore, qui sait. En fait, les filles dans mon établissement, elles ne savent pas le bonheur que ça nous procure de voir un robot d'état de fer rouler grâce à toi. Quand tu te rends compte qu'il y avait juste des barres de fer, des roues placées là qui ne faisaient rien, et tout à coup, grâce à la manipulation et la programmation, ces barres de fer sont capables de rouler et avancer, c'est magique. C'est magique.
Et ça vous donne le sourire à toutes les deux?
Oui, ça donne le sourire, oui. Ça donne beaucoup de sourire.
Vous avez 16 et 17 ans. Est-ce que vous pensez qu'en étant adolescent, adolescente, on peut changer le monde?
Oui, je pense qu'on peut changer le monde à notre âge.
Moi aussi, je crois, parce que c'est pas parce qu'on est adolescent qu'on porte pas un regard particulier sur ce qui nous entoure, qu'on n'a pas quelque chose à dire. On a des sentiments, on en parle, on a aussi des arguments, on les dit. On fait des concours, on gagne de l'expérience, même si on commence, on fait des erreurs. Au fur et à mesure, on aura des expériences. Si on commence tôt, on finira plus expérimenté que certaines personnes qui ont commencé plus tard. Donc au moins, ça, on a un avantage.
Sena Boukan et Abigail Ifomachinedou, c'était un reportage de Charlie Dupuis. Avant de changer le monde, toutes les deux, elles vont passer leur baccalauréat, Charlie.
Oui, c'est ça. Et après le bac, elles veulent toutes les deux continuer les études, alors dans l'informatique, dans l'IA, l'intelligence artificielle ou la robotique, et si possible, comme elles me l'ont dit, les trois en même temps.
Est-ce que ça vous donne de l'espoir, Marion Carré, vous qui avez enquêté sur une femme qui avait quasiment disparu de l'histoire de l'informatique en France?
Ça me donne beaucoup d'espoir. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est plus on commence jeune, plus effectivement on peut arriver avec des idées fraîches, faire bouger les choses, mais surtout inspirer des personnes autour de soi. Et c'est vraiment cette chaîne d'inspiration qui est décrite dans ce qui vient d'être dit et que je cherche à décrire dans le livre en se disant en fait en mettant en avant ces femmes et en ayant des femmes qui font bouger les choses, il y en a tellement d'autres derrière qui vont le faire et on enclenche un cercle vertueux.
Ouais. Quelquefois on vous a traité de garçon, vous aussi?
Jamais.
Jennifer Lufaux, spécialiste des jeux vidéo, vous aussi on vous a
parfois traité de garçon ou jamais?
On m'a jamais traité de garçon. Alors, garçon manqué, c'est déjà arrivé par contre. Oui, malheureusement, comme si c'était dédié uniquement à eux. Mais voilà, très fière d'être une fille qui joue et qui fait tout comme les autres.
Ouais, elle vous inspire, celle qu'on vient d'entendre?
Complètement, vraiment. Je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle disait. J'ai juste envie de dire go girls. Ça fait tellement du bien en fait.
Go girls, ouais. Exactement, c'est la bonne conclusion. Merci. Jennifer Lufaux, on vous retrouve dans quelques instants dans l'univers du jeu vidéo avec votre sélection des 25 personnalités francophones à suivre absolument en 2024, pardon. C'est-à-dire tout de suite, ça sera juste après CISÉ. Lufaux, chez 8 milliards de voisins, on est ravis de vous accueillir, Jennifer, parce que vous avez réalisé un long format sur RFI qui présente les 25 personnalités francophones du jeu vidéo à suivre en 2024. Alors attention, c'est pas un énième classement Forbes ou autre, ce sont vos intuitions, vos coups de cœur.
Exactement. Oui, pour le comprendre en fait, comprendre l'essence de cette liste, il faut aussi mieux comprendre mon propre parcours dans le monde du jeu vidéo. Et c'est vrai que cette liste, c'est mon idée, mais elle existe aussi pour moi finalement. Je vous en parle sur fond de musique du jeu vidéo camerounais Orion, Legend of the Koryodan du studio Kiro Games.
Qui est devenu un classique, encensé par la critique.
Cela fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint le milieu du jeu vidéo. Joueuse depuis mon enfance, j'ai fondé l'association Afro-Gameuse pour me sentir moins seule en tant que fille et joueuse noire qui subissait non seulement le sexisme, mais aussi le racisme dans les jeux vidéo en ligne. En tant que streameuse sur la plateforme Twitch, j'ai fait le même constat de toxicité et vu l'absence de héros qui me ressemblent. En tant que professionnelle du jeu vidéo cette fois, ayant travaillé dans des studios comme Ubisoft, Twin Drums et avec des développeurs indépendants, j'ai réalisé que je faisais là aussi partie des rares femmes racisées du milieu.
Chaque année, le classement des 50 Français qui feront le jeu vidéo, écrit par le journaliste Jean Z pour le Gaming Campus, sort. Et je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a inclus dans cette liste cette année.
Bravo.
Malgré tout, merci. Malgré tout, en lisant cette liste, eh bien, j'ai ressenti un certain malaise parce que je n'y voyais pas des personnes que je connais dans la vraie vie et qui, à mon sens, se sont pourtant démarquées en 2023 pour leur travail au sein de l'industrie. Et puisque j'aime incarner le changement que je souhaite voir, j'ai décidé de créer moi-même ma propre liste. Et c'est alors là que je décide de consulter Jean Z, le journaliste, pour m'aiguiller dans cette nouvelle entreprise. Et à force de recherches et de consultations auprès de mon réseau, je fais une large sélection de profils internationaux, francophones, avec autant d'hommes que de femmes, qui font des jeux, œuvrent pour avoir de l'impact ou organisent des événements. Mon objectif, c'est les visibiliser, les encourager et leur ouvrir des portes. C'est donc comme ça qu'est née la liste des 25 personnalités francophones du jeu vidéo à suivre en 2024.
Alors, qui on peut retrouver dans cette liste, Jennifer Lufaux ?
On y retrouve par exemple des créateurs de jeux vidéo, comme le Guinéen Serge Abraham Tadé, qui, après plusieurs années de développement, a enfin sorti son jeu African Heroes en 2024, un jeu qui parle des légendes africaines et qui se fait rare finalement dans l'industrie. On a aussi la comédienne Corinne Wellong, qui a fait la voix de plusieurs héroïnes de jeux vidéo.
Petite dédicace spécialement pour toi, parce que j'aime tellement doubler Samira, mais c'est vraiment un kiff. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas Samira, tu leur envoies ça. Tu as le droit de ne pas m'aimer. On ne peut pas tous avoir bon goût.
Ça y est, on a reconnu.
J'adore sa voix et elle est très reconnaissable. Hein. Elle a aussi fait la voix de Saga Anderson dans Alan Wake 2 ou encore donc Samira de League of Legends que vous venez d'entendre pour les connaisseurs. La liste met aussi en avant des influenceurs, donc ces personnes qui utilisent leurs médias comme Samoura Curier qui a fait un jeu nommé Au Secours afin de dénoncer la crise de l'eau en Guadeloupe. Vous avez aussi la streameuse Mama Paprika qui participe à l'organisation de l'événement Furax pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça aura lieu ce week-end d'ailleurs sur la chaîne Twitch de Furax. Mmh. On y retrouve aussi la jeune malgache Tiaro Manuela Mampiarina alias Kimi qui, à 19 ans, joue depuis seulement 4 ans à des jeux de combat comme Tekken, non pas dans le confort de la maison, mais bien dans des salles de jeu. Et c'est ce qui lui a permis de remporter la première place lors d'un tournoi 100% africain et féminin au Kenya, ainsi que la deuxième place au Abena Tournaments le week-end dernier à la Gamers Assembly en France. Je vous cite également l'illustratrice et animatrice franco-sénégalaise Julie Kahn, qui est en train de fonder un studio pour sensibiliser les joueurs et les joueuses aux jeux vidéo éco-responsables. Rien que ça.
Ouais, rien que ça. Vous en avez cité 5. Hein. Il y en a encore une vingtaine à découvrir. Et on va pouvoir bien sûr les retrouver sur le site internet de RFI. Mais vous voulez en mentionner peut-être un ou deux qui ne sont pas dans la liste prévue ?
Oui, c'est important parce qu'en la faisant, je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié des personnalités importantes. Donc, je voulais quand même vous citer le champion sénégalais Ismaëla Verix-Gay qui a gagné aux États-Unis la première place sur le jeu Guilty Gear Strive au Arc World Tour. Également Michael Newton, qui lui a été élu personnalité jeu vidéo de l'année au Pégase, soit les Césars du jeu vidéo français. Avec de tels profils, ce que j'espère, c'est que les lecteurs se rendront compte de l'immense contribution de la diaspora afro-caribéenne dans les divertissements le plus lucratif et populaire au monde, il faut le rappeler. Ouais. On permettra aussi, je l'espère, de susciter de nouvelles vocations à travers ces rôles modèles. Et enfin, on prendra le jeu vidéo avec un peu plus de sérieux. Je crois qu'il nous appartient désormais à nous, hein, sur le continent aussi, de faire briller ces profils qui ont un rôle à jouer dans notre manière de concevoir le monde ainsi que nos imaginaires. Et je crois qu'au fond, ce que j'espère, Emmanuel, c'est que les prochaines générations ne manqueront pas de rôles modèles et auront tous les outils en main pour créer des jeux et des histoires qui vont leur ressembler.
Et on compte sur vous, Jennifer Lufaux, sur RFI avec votre chronique sur les jeux vidéo à retrouver chaque semaine à l'antenne, en podcast, tout comme notre émission d'ailleurs, 8 milliards de voisins. Merci à vous, merci à l'équipe. Demain, 8 milliards de voisins, Laurence Garcia vous donne la parole. Faut-il interdire TikTok ? L'appli la plus populaire au monde est-elle vraiment addictive ? Et un problème pour le cerveau des jeunes ? On en parle demain.